Marie-France a reçu une petite image ce matin qui, je trouve, va très très bien avec ce que j'avais à dire. Donc je pense qu'on va commencer par l'écouter, même si ça la met très mal à l'aise, mais c'est pas grave. Maintenant qu'on le sait, ça va. Bonjour. Non, je suis pas gentille.
Et juste ce matin, pendant la louange, j'avais une merveilleuse blancheur éblouissante de nappe ou de drap qui était secouée. Plein de choses tombaient. Et en même temps, je dis, oh, qu'est-ce que c'est, Seigneur ? Et j'ai reçu un cœur pur. C'est un cœur non partagé. Un cœur pur, il n'est pas partagé avec ce qui était à jeter. C'est tout, j'ai partagé ça avec Michel. Et ce qui était merveilleux, c'est que André a parlé dans le même sens. Et aussi, Yves, tout à l'heure, le cœur pur non partagé. Donc voilà, c'est ça que j'avais juste reçu.
Merci beaucoup.
Merci.
Oui, c'est important parce que justement, dans l'histoire de Josué, on va... Justement, j'ai travaillé là-dessus. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Parce que justement, le problème du peuple d'Israël, c'était ça. C'était pas le problème de Josué, c'était pas le problème de Moïse. C'était un peu le problème d'Aaron. Et nous, enfin, j'avais l'impression que le Seigneur me disait à un moment, oui, tu peux toujours critiquer le peuple d'Israël, mais est-ce que t'es mieux ? Non. Hein, on a ce cœur partagé, justement, trop souvent. Trop souvent, faut être honnête. Hein. On n'est pas mieux qu'eux à certains égards. Donc, je vais faire un petit rappel historique, c'est important. C'est pour ça aussi que je voulais que les enfants, ce matin, voient un peu le cadre de vie des Israélites. Parce que c'est facile de lire la Bible sans voir le cadre. Ils se disent, ouais, bon... Il faut voir ce qu'ils ont vécu en Égypte. D'accord, ils étaient esclaves, ils étaient battus, gna gna gna. Mais il y avait des avantages. Il y avait des choses sympas en Égypte qu'ils n'ont plus retrouvées dans le désert. Donc, je voulais que les enfants voient un petit peu ces choses concrètement dans le petit DVD, très bien fait. Et on comprend mieux pourquoi ils se sont bien barbés dans le désert et ils râlaient tout le temps. Ils n'ont fait que ça. J'ai été plongée toute la semaine dans les rouspétances d'Israël. Heureusement qu'on n'a pas une église qui rouspète trop parce que j'aurais déprimé. Mais toute la semaine, j'étais là-dedans et oh, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible qu'ils aient rouspété autant. Et je lisais dans un des commentaires, il y a eu 10 révoltes principales en un an et demi. Pauvre Moïse. Bon, ben, on va en reparler. Donc, on fait un tout petit rappel pour ceux surtout qui n'ont pas suivi la première séance, puis c'était il y a 15 jours, donc voilà. Déjà, pourquoi on fait ces études de personnages de la Bible depuis maintenant 8 ans, 9 ans ? À cause de ce verset de Corinthiens 10, 11 qui dit... Tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Donc, ça nous concerne. C'est pas seulement une histoire qui a eu lieu il y a 3000 ans et plus. Car malgré les 3500 ans, en fait, qui nous séparent, malgré les différences de culture qui sont quand même énormes et d'époque, l'homme, fondamentalement, est toujours le même. Et c'est ça qui est incroyable avec la Bible. On peut lire une histoire qui a 3500 ans et se reconnaître trait pour trait. L'homme, il n'a pas changé. Apparemment, il n'a pas évolué de ce côté-là, en tout cas. Et en fait, c'est ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire l'homme naturel. Il est toujours le même. Il a toujours les mêmes réactions. On peut se reconnaître dans chacun de ces personnages. Et bien sûr, j'aimerais bien que cette fois-ci, on s'identifie tous à Josué, parce que c'est le meilleur. Il y a un lien évident aussi avec le thème pastoral de cette année. Vous savez qu'on a choisi un très gros mot, un très vilain mot là pour le thème pastoral. Un mot que personne n'aime, surtout pas les enfants, mais nous les adultes pas beaucoup plus, l'obéissance. Ça, c'est très politiquement incorrect, surtout en France. Mais voilà, c'est le thème pastoral de cette année. Et beaucoup de commentaires, je l'avais dit la dernière fois, disent, sous la conduite de Josué, je cite un des commentaires, « Les Israélites réussissaient dans la mesure où ils obéissaient à Dieu. » Aïe, aïe, aïe. Donc ça va très bien avec le thème pastoral. Alors, je vous fais un petit rappel de l'histoire biblique, parce que j'y tiens. Pour moi, la chronologie biblique, c'est très important. Si on tire les histoires de leur contexte, c'est pas qu'elles servent à rien. Hein. On peut lire la Bible sans rien connaître de l'histoire. Le Seigneur parle. Mais si on connaît le contexte historique, ça parle deux fois, trois fois plus. Donc, on redémarre, vous vous souvenez, Genèse, création, Adam et Ève, la chute, Caïn et Abel. Des années sont passées, l'histoire de Noé, les années sont passées, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a 12 fils, dont le petit chouchou Joseph, qui va en Égypte et fait aller toute sa famille là-bas. Il a deux fils en Égypte, d'une femme égyptienne, mais qui apparemment a accepté le Dieu d'Israël, Éphraïm et Manassé. J'insiste sur Éphraïm parce que Josué vient de cette tribu-là, tribu d'Éphraïm, richement béni par Dieu quand il a donné la bénédiction. Vous vous souvenez, Jacob a donné la plus grande bénédiction à Éphraïm. Ils ont passé donc 430 ans en Égypte. Alors je sais que les archéologues se battent sur ce chiffre. Ils ont passé un très long temps en Égypte. La Bible opte pour 430 ans, j'en reste là. Moïse les a fait sortir. Et on en est là, la sortie d'Égypte. Josué, donc on a dit la dernière fois, sa vie, avant que la Bible la mentionne, on ne la connaît pas, elle n'est pas racontée. C'est un peu comme l'histoire de Jésus. On sait qu'il a vécu jusqu'à 30 ans, on sait quelques détails, mais 12 ans, puis après plus rien. Josué, c'est un petit peu pareil. Donc il faut déduire un peu ce qu'il a vécu en regardant les événements de l'époque. Très important. Il était visiblement enfant d'esclaves israélites en Égypte. C'est déjà pas drôle hein, pour démarrer dans la vie. Son nom, par contre, voulait dire « salut, délivrance ». Et ça montre clairement, vous savez qu'on ne donnait pas les noms n'importe comment, on l'a dit la fois dernière, ça montre l'espérance des parents qui étaient fidèles au Dieu invisible. Ils ne l'auraient pas appelé comme ça. Parce que vous savez, quand les gens étaient découragés, ils n'hésitaient pas à donner un nom catastrophique à leur gamin. Ça, j'ai jamais compris. Détresse, guerre. Et ben, donc, ils avaient visiblement une espérance pour l'appeler salut, délivrance. Donc, c'était des parents qui étaient fidèles au Dieu invisible d'Israël. Ce n'était pas évident, hein, quand on vit dans un pays qui adore des crocodiles, des grenouilles, des chats, et le pharaon. Oui, les chats aussi. Donc, ils n'étaient pas sensibles aux idoles d'Égypte. C'est important. Visiblement. Il va connaître lui aussi les mauvais traitements, la souffrance des esclaves, mais aussi l'abondance de nourriture. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, eux, ils ne l'ont pas oublié quand ils étaient dans le désert. L'abondance de récoltes, de fruits, de légumes, de bétail, rien à voir avec ce qu'ils vont vivre au désert. Et ça, pour des humains bien naturels, c'est important. D'accord, il y avait les mauvais traitements, mais vous savez, c'était un peu comme au Moyen-Âge. Hein. On devait les corvées au Seigneur, donc ils étaient de corvées gratuites, bien sûr. Mais ils avaient aussi, parallèlement, une vie. Et une vie assez riche, avec une réelle abondance. L'Égypte était un pays très riche. Et le pays de Goshen, où ils étaient installés, était très productif. Quand vous vous retrouvez dans le désert, il faut bien se rappeler de ça. Il est né loin de la terre promise à Abraham. Et d'ailleurs, j'avais dit, ils auraient dû y retourner après la mort de Joseph. Au lieu d'enterrer Joseph, le faire embaumer et puis de l'enterrer en Égypte, ils auraient dû rentrer à la mort de Joseph. Mais non, ils étaient... Comment ils ne sont pas rentrés? Vous comprenez pourquoi? Ils étaient trop bien. Et ils se demandaient certainement, les parents de Josué, comme les autres, si Dieu les avait oubliés, parce que 430 ans étaient passés, presque. La Bible, par contre, et on a insisté là-dessus la dernière fois, dit que Dieu a entendu les cris des Israélites. Donc Josué a été témoin de toutes sortes de prières et de supplications. Seigneur nous a-tu oublié? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Seigneur, est-ce qu'on pourrait rentrer? Bon. Il a dû voir aussi, il était certainement présent, il était tout jeune homme, au moment du retour de Moïse avec Aaron. Je me suis même demandé s'il était présent quand Moïse a convoqué tous les anciens d'Israël. Je ne sais pas si c'était à huis clos, mais vu la grandeur des maisons, je pense qu'on pouvait écouter ce qui se passait. Je ne serais pas étonnée qu'il ait écouté. Il voit et il entend parler Moïse, c'est-à-dire qu'il entend les promesses du Seigneur. Il voit les signes que Moïse a produits devant eux pour leur dire « Oui, je suis venu pour vous délivrer ». Et il a assisté, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais il a dû y penser après. À Exode 4, 31, on voit le peuple qui croit tellement Moïse qu'il va jusqu'à se prosterner par terre. Un bon début. Malheureusement, c'est pas resté comme ça. Et puis, il va constater, après la première visite de Moïse à Pharaon, la réaction violente et moqueuse de Pharaon. Et là, c'est très bien rendu dans les films et les dessins animés. Celui que les enfants sont en train de regarder, c'est très, très, très vivant. Ce mépris profond. Réaction violente et moqueuse. Et bien maintenant, vous ferez autant de briques, mais sans qu'on vous fournisse la paille. Accablez ces gens de travail. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils croient aux paroles mensongères. Combien de fois l'ennemi est venu nous dire « Ne crois pas à ces paroles mensongères » de la Bible, de Dieu. Sûr, pour lui, c'est des paroles mensongères. Hein. C'est le monde à l'envers. Et combien de fois est-ce que le diable essaie de nous accabler de travail? Alors que ce soit travail au sens propre, ou travail de nos ménages. Pour qu'on ait de quoi s'occuper, le verset dit ceci, hein, accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper, et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. Et je crois qu'il faut qu'en tant que chrétien, on soit attentif à ça. Cette attitude du pharaon, elle a guère changé. Le diable a toujours la même tactique. Bien nous occuper, hein, qu'ils aient de là de quoi s'occuper, et qu'on prête plus attention aux paroles de Dieu. Et je dois le constater pour moi-même, hein, combien de fois ça arrive ? On est tellement pris par le tourbillon, surtout en région parisienne. Hein. Alors là, je crois que c'est... Là, le pharaon, il marche bien. On est accablé de toutes sortes d'horaires, de choses à faire, à dire, à voir, à téléphoner, etc. Ou alors on est sur Internet. Moi, j'ai la chance de ne pas m'en servir. Mais ça prend du temps. Et accabler ces gens pour qu'ils aient de quoi s'occuper. Et qu'ils ne prêtent plus attention aux paroles mensongères de Moïse, c'est-à-dire à la vérité de Dieu. Et moi, j'ai réfléchi un peu cette semaine à ça, et ça fait froid dans le dos. Parce que je pense que c'est un de nos problèmes, qu'on se laisse souvent accabler de travail. Soit de travail physique, soit... Et parfois, alors là, le pire, c'est que parfois, c'est pas nous qui le cherchons, mais parfois, c'est vraiment l'ennemi. Et je disais dimanche, hein, combien de fois j'ai vu des chrétiens qui s'engageaient pour servir le Seigneur, et à peine ils étaient engagés, le patron les convoquait. Vous avez une promotion. Vous allez faire 2 heures de plus par jour, et puis vous irez là, puis vous ferez ça, vous serez en déplacement toutes les 3 semaines, et puis ta. Et alors la culpabilité qui vient, oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas facile à résoudre ça, et le diable sait bien que c'est pas facile à résoudre. On va pas envoyer le patron balader. On est quand même content d'avoir un travail intéressant. Ben, il n'y a qu'une recette, hein, c'est prier. J'ai pas de recette. Mais j'ai constaté que ça marchait souvent comme ça. Il n'y a pas de recette facile, mais il faut mettre ça dans la prière et voir ça avec le Seigneur. Quand l'ennemi voit que notre délivrance approche aussi, alors si vous avez un sujet de prière, quelque chose de très important, ou que le royaume de Dieu va avancer, là au niveau de l'Église par exemple, il va toujours chercher à nous accabler pour nous faire perdre la foi. Même technique que le pharaon. Pour croire que les paroles de Dieu sont mensongères. Dieu ne t'a rien promis, c'est du vent. C'est pas possible. De toute façon, ce que tu vas faire, ça ne va faire qu'empirer la situation. Hein ? Vous reconnaissez ces paroles qui nous tournent parfois dans la tête. Donc Josué a constaté tout ça, et il a constaté aussi, lui qui devait être tout content, puisqu'il a vraiment été élevé dans le Seigneur, tout content de voir les gens se prosterner devant les paroles de Moïse, devant Dieu. Voilà, quelques versets plus loin, un chapitre plus loin, on voit une colère envers Moïse et Aaron, et ça a dû toucher Josué, que le Seigneur vous regarde et qu'il juge, Exode 5, 21. Vous nous rendez aux dieux, aux pharaons et aux gens de sa cour, comme si c'était important. Enfin, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. D'un seul coup, ils virevolent complètement, parce qu'ils sont accablés de travail. Et Josué a vu tout ça, ce changement, hein. Ça a dû le frapper, tout jeune homme. Oh, bah alors quoi, la semaine dernière, ils étaient là, prosternés devant Dieu, puis cette semaine, c'est tout juste si on ne veut pas tuer Moïse et Aaron. Il doit entendre aussi les promesses de Dieu exprimées par Moïse, et elles sont magnifiques. J'ai entendu, je résume parce qu'on les a déjà vus la dernière fois, j'ai entendu, je vous affranchirai, je vous prendrai, je serai votre Dieu, vous saurez qui je suis, je vous ferai entrer dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. Une liste de promesses. Il y en a même une que j'aime beaucoup, je vous prendrai sur mes ailes comme l'aigle. Vous savez, on dit que les aigles, quand ils apprennent à voler à leurs petits, et soit il les laisse voler, puis après il passe en dessous, au cas où il tomberait comme une pierre. Et cette image est tellement belle, qu'il nous portera sur des ailes d'aigle. Et vous savez que c'est aussi une prophétie que les enfants d'Israël retourneraient dans leur pays sur des ailes d'aigle. Et je ne sais pas si vous savez, mais les avions, les premiers avions qui ont ramené les Juifs en Israël après l'Holocauste, il y avait donc les ailes d'aile et les ailes de la colombe dans cette prophétie. Et les premiers avions s'appelaient colombe et aigle. Très intéressant. Les prophéties bibliques ont parfois des accomplissements étonnants. Donc il entend toutes les promesses de Dieu. Et puis, j'aime bien, on pense que c'est Moïse qui a rédigé, verset 9 du chapitre 6, « Ils n'écoutèrent pas des belles promesses comme ça. » Mais enfin, dites donc, ces gens-là, ils avaient vu s'ouvrir la mer. Bon, ils avaient vu pas mal de choses quand même. Enfin, ils n'avaient pas encore vu s'ouvrir la mer. Mais ils ont refait ces choses-là après, parce que c'est un principe tout au long de leur vie. Ils n'écoutèrent pas à cause de leur impatience due à l'esclavage. Le problème, c'est qu'ils vont rester comme ça. C'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, j'avance un peu trop. Ils vont rester comme ça encore après le passage de la mer Rouge. C'est ça qui est bizarre. On va voir ça après. Ils n'écoutèrent pas à cause de leur impatience ou ce dur esclavage. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que parfois on refuse pas d'écouter à cause de notre impatience ? Regardez les enfants, si vous essayez de leur faire passer un message quand ils sont dans l'impatience, bonne chance. Même les plus gentils, s'ils sont dans un état d'impatience, il n'y a plus rien qui passe. Est-ce que nous aussi, l'accablement du travail, parfois, nous rend sourds à Dieu ? Et je pense qu'en région parisienne, c'est vraiment le danger. Nous arrive-t-il de tout envoyer balader simplement à cause des attaques de l'ennemi ? Et ça, l'ennemi le sait. C'est aussi pour ça qu'il attaque. Il sait très bien que s'il nous charge bien, on ne va pas écouter Dieu. Et quand on voit l'attitude de Josué plus tard, on imagine que lui, pendant cette période, il est resté dans la foi. Et je pense que c'est cette attitude aussi qui l'a fait remarquer par Moïse. Ensuite, il est sûr qu'il a vu les 10 plaies d'Égypte se répandre et épargner le pays de Goshen. Mais tout le monde l'a vu, ça. Mais lui, apparemment, ça l'a marqué. Les autres, je ne sais pas, ils ont l'air d'oublier. C'était pourtant spectaculaire. Ensuite, il a vécu la première Pâque avec sa famille, visiblement, puisqu'il est sorti. Ensuite, il y a eu la nuée qui conduisait, le feu la nuit, qui conduisait le peuple. Il a vécu l'extraordinaire sortie d'Égypte, la panique qu'ils ont dû vivre quand ils ont été pris entre l'eau et les Égyptiens. La mer qui s'est ouverte, qui a englouti l'armée. C'est très bien fait d'ailleurs dans le dessin animé. Il a chanté avec les autres la délivrance, chapitre 15, ça, lisez ce chapitre 15, ce chant de délivrance extraordinaire. Puis après, ce pauvre Josué, il a vu la colère des Israélites 3 jours plus tard à cause du manque d'eau. Mara. Bon, alors on les critique, mais je voudrais bien nous y voir, nous, 3 jours, se retrouver sans eau avec des troupeaux de moutons. Des ânes, des chèvres, etc. Ils ont amené tout, hein. Qu'est-ce qu'on ferait ? Comment on vivrait ça, sans eau ? C'est normal qu'ils aient râlé, hein. Par contre, ils avaient une autre solution. Plutôt que de râler, ils pouvaient supplier Dieu. Se mettre à genoux et crier à Dieu. C'est ça qui me surprend. Pourquoi ils n'avaient pas ce réflexe ? Ils étaient nombreux, là. Ils pouvaient faire une réunion de prière géante. Ils n'avaient pas de train à prendre. Ils pouvaient vraiment se jeter par terre devant Dieu et crier toute la journée. « S'il te plaît, donne-nous à boire. » Ils ont préféré râler. Ça m'inquiète un peu. Mais tout, ça ne nous arrive jamais, bien sûr. Et puis, 1 mois et demi après, recolère pour avoir du pain et de la viande. Ils ont la manne, ils ont les cailles. Alors, chez les enfants, vous regarderez ceux qui ont les enfants. J'ai découpé un petit extrait, justement, qui explique que jusqu'en 1924, il y a eu des migrations de cailles sur ces régions-là. Et ils ont été tellement tués, qu'en 1924, c'était la dernière fois, les migrations de cailles se sont arrêtées. Donc ça a duré plus de 3000 ans, ces migrations de cailles. Donc c'est un phénomène naturel que Dieu a rabattu sur le camp. Parce que, évidemment, normalement, ils ne s'abattent pas sur les gens. Mais le fait est qu'il y a ces migrations. Vous voyez, quand on dit que la Bible dit n'importe quoi, on devrait regarder à 2 fois. Ensuite, ils voient encore le peuple qui va chercher querelle à Moïse, de nouveau pour de l'eau, alors qu'ils avaient vu Dieu répondre une première fois. Ils avaient même eu 12 sources d'eau à Élim. C'est pas mal, hein ? Une par tribu. Mais ils vont recommencer à chercher querelle pour de l'eau, et là, Moïse va frapper le rocher. Pourquoi ? Pourquoi cette querelle sans arrêt, au lieu de prier, hein ? On va voir. Et puis, Josué, on l'a découvert la dernière fois. Pour la première fois, il est mentionné dans la Bible. Jusque-là, hein ? On devine ce qu'il a vécu à cause des autres, mais on ne parle pas de lui. Pour la première fois, on va parler de lui. Première mention de Josué, c'est dans Exode 17, 8 à 16. À Rephidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Ben, il manquait plus que ça. Ils étaient fatigués, ils avaient bien râlé. Ça faisait à peu près 3 mois qu'ils étaient sortis d'Égypte. Et voilà que c'est la guerre. C'est l'horreur, hein. C'est l'horreur. Le peuple d'Israël, d'ailleurs, en 1948, hein, à peine il était rentré, à peine on lui avait donné son pays, qu'ils avaient la guerre. Un schéma classique. Pourquoi ? L'ennemi raffole de nous taper dessus quand on est fatigué. Arifidi, Amalek va faire la guerre. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Tiens, d'où il sort Josué? Première mention de Josué. Donc ça veut dire qu'il était proche de Moïse. C'est aussi pour ça que je me suis permis de dire tout ce que j'ai dit avant, parce qu'il ne sort pas de nulle part. Visiblement, c'était quelqu'un que Moïse connaissait bien et pour qui Moïse avait de l'estime. Qui étaient les Amalécites? Alors, c'était des cousins, descendants d'Ésaü, frère de Jacob. C'était des cousins. Une peuplade errante. Et alors, il y a un autre verset dans Deutéronome qui parle des Amalécites, qui est bien intéressant. Deutéronome 25-17 les décrit comme ceux qui ont attaqué ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient en dernier, alors que tu étais fatigué, épuisé, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Comment est-ce que l'ennemi nous attaque? Ben, il attaque l'arrière-garde. Il attaque là où on ne regarde pas. Là où on n'a pas des yeux dans le dos, on n'est pas comme les mouches ou les poules, on ne voit pas derrière. Et c'est là qu'il attaque. Ceux qui se traînaient en dernier. Oh, ça, c'est pas juste. Vous avez déjà vu le diable juste, vous? Ceux qui se traînent en dernier. Alors, j'étais choquée quand j'entendais John Wimber au début dire « La place la plus sûre dans le royaume de Dieu, c'est au premier rang de la bataille. » Tu parles. Mais il n'avait pas tort, hein, parce qu'au premier rang, on se prépare. On est armé, on est prêt. Mais quand on est au fond et qu'on traîne, on pense que c'est les autres devant qui vont trinquer, et puis bon, on est en sécurité. Et le diable sait. Et vous avez déjà vu dans les documentaires, les lions, comment ils font quand ils cherchent une proie? Le petit qui est derrière, qui traîne, qui boite, qui est fatigué, etc. Ceux qui ont attaqué ton arrière-garde, ceux qui se traînaient en dernier alors que tu étais fatigué, épuisé. Alors attention, quand on est fatigué, épuisé, attention, c'est là que le diable va vous tomber dessus. Et j'ai remarqué, quand on a des soucis, quand on a quelqu'un à l'hôpital, quand on traverse des périodes difficiles, c'est là que le diable attaque le plus. Je crois qu'on a tous vécu ça. Hein. C'est là que ça frappe. Parce qu'on est affaibli. Et vous savez que le diable, c'est son truc, ça, de taper sur les gens à terre. Et parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Mais c'était des cousins. Théoriquement, ils adoraient le même Dieu. C'était des cousins, mais ils ne craignaient pas Dieu. Alors pour moi, si c'est d'une part une image claire de la manière dont l'ennemi nous attaque, en tant que personne, en tant que famille, ou même en tant qu'église, il attaque toujours au mauvais moment et par derrière. Mais pour Israël, c'était des cousins qui ne craignaient pas Dieu. Autrement dit, on peut aussi être attaqué par des gens qui se disent chrétiens, mais qui dans leur vie quotidienne ne craignent pas Dieu. C'est là le problème. Le nom, l'étiquette qui est sur la bouteille, ce n'est pas le plus important, hein. C'est ce qui est dans la bouteille qui compte. C'est des gens qui ne craignent pas Dieu, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les valeurs du royaume de Dieu, mais qui ont gardé leur culture, leur façon de voir les choses, et ne craignent pas Dieu. Donc c'est important, on en reparlera après. Et puis il se trouve à Réphidim, hein, verset 8. Alors Réphidim, j'ai regardé, ça veut dire grands espaces. Alors là aussi, vos enfants ont des photos de cet endroit. Près de la montagne d'Horeb. Alors, ceci étant, pour les spécialistes, Horeb ou Sinaï, on ne sait pas exactement où c'est. Il y a beaucoup de montagnes dans cette péninsule où ils ont circulé. Donc, on ne sait pas trop si c'est tout au sud ou un petit peu plus haut, au nord-est. Peu importe, il y a un endroit qui s'appelle le Sinaï ou Horeb. C'est la même chose. Hein. Sinaï et Horeb, c'est la même chose quand vous lisez la Bible. Donc, ils étaient dans ces grands espaces, à 10 km au nord-ouest de la montagne. Important à savoir, parce que vous allez voir ce qui se passe. Demain, Moïse dit « Je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Ça veut dire que Moïse a fait une dizaine de kilomètres au nord-ouest de cette grande plaine pour monter sur la montagne, à peu près. Hein. Et donc on pouvait le voir, je pense que sa silhouette devait se découper sur la montagne, certainement était sur un rocher qui ressortait. Et il a prié pour Josué qui était en bas. À Réphidim, c'est là aussi qu'il avait frappé le rocher quelque temps avant. Frappé, parce que Dieu avait dit frapper. Vous savez qu'après, ça va se passer différemment. Et c'est très très bien expliqué d'ailleurs, en frappant le rocher, l'eau s'est mise à couler Et je me suis toujours posé la question, comment une malheureuse source a pu donner de l'eau à tout le monde? Bah oui, bien sûr. L'eau a commencé à dévaler la pente et il y a un oued à cet endroit-là. Donc c'est une rivière asséchée, donc un lit de rivière qui a accueilli l'eau et qui traversait le camp. Donc tout le camp a été abreuvé. Il suffisait d'y penser. Maintenant, j'ai la réponse, que je me demandais comment ils avaient fait. L'eau avait jailli là. Donc c'est aussi sur cette montagne que va retourner Moïse après pour prier pour Josué. Je fais la boucle. Donc on est à 3 mois après la sortie d'Égypte. Le peuple est fatigué, forcément, un peu découragé. Ils ont une perspective assez difficile, vous imaginez, tout un désert à traverser pour rentrer en terre promise. Et voilà que maintenant, non seulement il y a la faim, il y a la soif, il y a la chaleur, mais il y a en plus les ennemis, donc la guerre. Et c'est comme si l'ennemi disait « Votre Dieu peut vous donner de quoi manger, mais moi je vous attaque dans votre faiblesse et vous êtes fichus ». Peut-être aussi que l'ennemi a attaqué pour une autre raison, j'ai réfléchi. Il y avait de l'eau maintenant. Vous savez que dans ces pays-là, encore aujourd'hui, hein, l'eau, c'est le trésor. Et puisque l'eau coulait, eh ben, il fallait les chasser pour récupérer l'eau. Ça peut être ça. Et parfois, l'ennemi, j'ai remarqué ça aussi, quelqu'un va être dans un travail, par exemple, dans la vie civile, hein, et le travail va prospérer entre ses mains, parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il est fidèle. Et fatalement, quand le travail prospère, quelqu'un d'autre va vouloir sa place. On a tous plus ou moins vécu des petites choses de ce genre. Parce que l'eau coule, parce qu'il y a de la prospérité, alors. C'est malheureusement vrai aussi dans le domaine spirituel, parfois. Hein. Mais il y a la guerre. Et la seule solution, bah, c'est celle de Moïse. Lever les bras vers Dieu. On en avait parlé la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi Josué? Je pense qu'il avait démontré ses capacités de leader à différentes occasions. Je pense qu'il ne devait pas faire partie de ceux qui rouspétaient. Ça devait être tellement rare que ça a dû le mettre tout de suite à la vue de tous. Il avait certainement repéré son courage, parce que quand il dit « Choisis-nous des hommes et sors et combat », bon, quand même, hein, il fallait qu'il ose. Il s'appuyait visiblement sur sa foi en Dieu plus que sur sa force, on le verra après. Parce que où est-ce qu'il aurait pu apprendre la guerre ou la stratégie? Or, c'était un très bon stratège, on le verra plus tard. C'était seulement la prière de Moïse qui allait lui donner la victoire. En fait, il était obéissant à Dieu et à Moïse. Il n'a pas discuté. Oh, moi, j'aurais discuté. Hein. Mais non, moi, je suis étonnée, hein. Il est allé tout de suite. Il avait vu Moïse obéir à Dieu. Je crois que ça, c'est important. Nous, on a vu Jésus, qui était totalement obéissant à Dieu. Donc, ça doit nous inspirer. Lui, il va continuer à obéir même dans la difficulté. Il s'est appuyé visiblement sur les promesses de Dieu, puisqu'on le voit après, il reste toujours là-dessus. Il a continué, je disais la dernière fois, à se battre, même quand les bras de Moïse étaient fatigués. Parce que se battre, c'est une chose. Quand Moïse tenait ses bras bien haut et qu'ils avaient le dessus. Mais au début, quand les bras de Moïse ont commencé à baisser, et qu'il devait jeter un coup d'œil tout en se battant, et qu'il voyait bien que les Amalécites avaient le dessus, ben, il avait le temps de fuir et de rouspéter en disant « on est perdu ». Ils ont quand même persévéré. Persévérer, la persévérance. C'est dur ça, la persévérance. Persévérer quand l'ennemi a le dessus. Et c'est pourtant ça qu'il faut. Et puis j'avais parlé la dernière fois de Dieu qui dit à Moïse après, alors ce petit verset que j'aime tant, « Tu diras bien à Josué, je le cherche, le Seigneur dit à Moïse, écrit cela dans le livre, je crois que c'est la première fois qu'on a cette mention d'ailleurs, pour qu'on s'en souvienne. Et dis bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Dis bien à Josué. Ce petit message pour Josué. Oh, ça me plaît ça. Dieu cherche à l'encourager et à l'affermir. Je crois qu'il est pareil avec nous. Il a toujours un petit message d'encouragement pour nous, après la guerre, quand on est bien fatigué. Après, entre l'attaque des Amalécites et l'épisode du veau d'or, on va retrouver Josué un petit peu plus loin, mais avant, oui, j'avais autre chose à dire à propos du choix des hommes. Parce que je me suis posé la question, quand je lis un texte comme ça, j'essaie de me mettre dans la situation. Vas-y, choisis des hommes pour faire la guerre. C'était des rouspéteurs. Ils étaient tous grognons. Ça ne devait pas être évident de choisir des hommes qui étaient prêts, fatigués, nanana, prêts à se battre, risquer leur peau en plus de tout, déjà quand on voit comme ils râlaient pour de l'eau. Choisis des hommes pour combattre, malgré la fatigue ambiante. Je ne sais pas comment il a fait pour choisir. Ça ne devait pas être évident. Hein. En fait, je pense qu'il a cherché des hommes qui avaient la force, du courage et la foi. C'est un choix extrêmement concret. Et j'ai pensé, ce n'était pas une question d'avancement, de promotion ou d'honneur. Il fallait être réaliste pour faire face aux ennemis et ne pas s'enfuir en rouspétant quand il y avait un problème. Parce que dès qu'ils ont vu les bras de Moïse qui étaient fatigués, je pense qu'ils auraient pu s'enfuir. Et bon, c'est fini, on est mort. Hein. Ils ont persévéré. Donc, il a dû. C'était un choix difficile. Et je trouve que j'ai réfléchi dans l'Église, c'est souvent la même chose. Les responsabilités de l'Église, qu'elles soient grandes ou petites aux yeux des hommes, n'ont absolument rien à voir avec un honneur, une récompense ou un encouragement. Et ça, on n'y pense pas parce qu'on est complètement dans notre schéma égyptien, dans notre schéma humain, charnel. Et on est humain, hein, on ne peut pas dire autrement, on est humain et on oublie ça. Mais le choix des hommes pour servir le Seigneur, c'est pas ça. C'est pas un encouragement, c'est pas un honneur, c'est pas une récompense, c'est pas une médaille. C'est pas quelque chose qu'on a à l'ancienneté. Je suis dans l'Église depuis 20 ans, donc je dois prétendre à tel ou tel poste, etc. Ça marche dans la société des hommes, et c'est très compréhensible dans la société des hommes. Mais dans le royaume de Dieu, il faut jamais oublier qu'on est un royaume contre un royaume. Et que quand on choisit des hommes, il faut que ce soit des hommes qui soient conscients qu'on est en guerre. On est en guerre, qu'on le veuille ou non, on est en guerre. Alors moi, je sais qu'on aspire tous à la paix. On aimerait bien une petite église tranquille et confortable où on se sente bien chaque dimanche. Qui n'a pas envie de ça? Moi, la première. Mais ce n'est pas la réalité. Le royaume de Dieu est en guerre. Il est en guerre. On peut faire des petites églises confortables et sympas. Mais je ne veux pas critiquer, mais quelque part, ils sont un petit peu à côté de ce qu'est le royaume de Dieu. Dieu les bénit, ce n'est pas un souci. Mais quand on est vraiment dans le royaume de Dieu, on sait qu'on est en guerre. Alors, je ne veux pas faire peur aux responsables de l'Église. Hein. Malheureusement, c'est la vérité. On est en guerre. Et la pire chose qu'on peut faire, c'est d'ignorer ça. Et de se dire, voilà, tout va bien, hein. Dieu nous aime, on prie les uns pour les autres, on s'aime bien, on s'entend bien, c'est confortable, etc. Ça, c'est un aspect très important, d'autant plus qu'on est en guerre, on a intérêt à se soutenir et à prier les uns pour les autres. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est en guerre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, il ne faut pas vivre dans la paranoïa de voir le diable partout et ne plus oser sortir de chez nous. De toute façon, la porte ne le dérange pas. Mais il faut quand même être conscient. Vous voyez, c'est difficile cet équilibre d'être conscient qu'on est en guerre et qu'il y a un réel danger et en même temps de ne pas être paranoïaque. Moi, je connais des chrétiens paranoïaques. Ils n'osent pas avoir de carte bleue, ils n'osent pas ci, ils n'osent pas ça parce que l'ennemi, bon, si c'est leur conviction, on respecte, on n'a pas à se moquer. Mais vous voyez, après, la paranoïa, ce n'est pas bon. Hein. Ça paralyse l'action. Donc, l'équilibre pour un chrétien, je trouve ça rudement difficile à tenir. Je dois pas être paranoïaque, mais je dois toujours être conscient que je suis en guerre. Et que l'ennemi me cherche. Il me cherche des noises, dès qu'il peut. Comme disait maman, parfois, pour empêcher mon père de rouler trop vite, ça vient de Billy Graham, c'est pas elle qui a inventé la phrase, mais il disait, si tu dépasses les limites de vitesse, Jésus sort de la voiture. Et le diable, il te repérera. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chrétiens ont plus facilement des contraventions, parce que le diable, il attend toujours le moment où on va faire la faute pour nous choper. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais il faut quand même en être conscient de ça. Ce qui fait que quand on a une responsabilité dans l'Église, c'est jamais un honneur, c'est jamais une récompense, c'est jamais une médaille, mais c'est, comme là, une nomination pour la guerre. Alors, il faut se préparer. Il faut en être conscient, il ne faut pas avoir peur. Mais je pense qu'on a malheureusement détourné parfois, et dans les églises chrétiennes en général, hein, il n'y a pas que les évangéliques qui sont concernés, on a oublié ça, ce qui fait que, voilà, on a accordé de l'importance à des titres, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est la guerre qu'on mène contre l'ennemi. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais l'ennemi est malin parce que souvent, avant de nous attaquer, pour nous dévorer, il commence par... je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais plus dans quel dessin animé de Walt Disney, il y a le serpent qui parle et qui dit « Fais-moi confiance !» Voilà, le livre de la jungle. Et le diable procède comme ça. Il nous endort, il nous hypnotise, puis après, bang, Donc, il faut mieux qu'on ne soit pas hypnotisé, qu'on ne soit pas endormi, qu'on soit conscient de ce qu'on a devant soi et qu'on se prépare à la guerre. Et là, Éphésiens, hein, Éphésiens 6, l'armure. Je ne pense pas qu'il aurait dit ça si c'était la paix. Désolée. Donc, il a fallu choisir des hommes qui soient prêts à combattre. Et certainement, il n'a pas choisi parmi ceux qui avaient rouspété contre Moïse. J'imagine qu'il y en avait quand même quelques-uns qui n'avaient pas rouspété. Comme au temps d'Élie, hein, on parle toujours de ceux qui rouspètent, mais j'imagine qu'il a dû en trouver quand même. Ou ceux qui regrettaient les légumes d'Égypte. Et croyez-moi, les hommes qui rouspétaient, je vais vous dire une chose, ils avaient raison. Humainement, ils avaient raison. Parce que souvent, on dit « Oh, quelle honte, ils ont rouspété. » Bah tiens, croyez pas qu'ils avaient raison. C'était dur. S'ils n'avaient pas la vision de Moïse et de Josué, c'était dur. Et puis, dans leur cœur, ils étaient encore esclaves en Égypte. Ils n'avaient pas changé de cœur. Et John Bevere dit souvent, ils avaient toujours la poussière de l'Égypte sur leurs vêtements. Ça veut tout dire. Ils ne voyaient pas leur voyage avec les yeux de Dieu, les yeux de la foi, mais seulement avec leur raisonnement humain. Et franchement, si vous considérez ce voyage en terre promise avec des yeux humains, d'abord c'est une folie, c'est insensé, c'est dangereux, c'est mortel. Enfin bon, il y a de quoi se déprimer, hein. Et être chrétien, c'est quelquefois dangereux, il y a de quoi parfois se déprimer, si on a seulement les yeux charnels. C'était dur, c'était dangereux, c'était fatigant, et c'était bien plus risqué que quelques coups de fouet en Égypte. Il risquait bien plus. Par contre, il y a une notion que Josué avait, et que peut-être ceux qui rouspétaient n'avaient pas, ils n'avaient pas conscience qu'ils vivaient une nouvelle saison. Et là, je rejoins Marc, ce qu'il disait la semaine dernière, cette notion de saison, on ne l'a pas parce qu'on vit loin de la nature. Mais dans la vie chrétienne, il y a aussi des saisons. Et la saison du désert, on y est tous passés. Et par période, on y repasse. Et on n'aime pas ça. Parce que c'est une saison où on est dépouillé, où on perd nos repères, où en plus, tu en profites pour tailler. Ouais. C'est pas marrant, hein. Mais c'est des saisons. Il faut accepter d'y passer. Alors moi, je dirais, moi, je vous donne le droit de rouspéter. Je ne crois pas que Dieu le donne. Mais c'est vrai, ça nous donne envie de rouspéter parce qu'on n'est pas à l'aise dans ces saisons de dépouillement. Et le peuple, en fait, toute cette période de désert, c'était fait pour ça. Les détacher de l'Égypte, les dépouiller de toute cette culture égyptienne, de toutes ces habitudes de confort, de se reposer sur le confort plutôt que sur Dieu, etc. C'était une période de dépouillement. C'était pas drôle. Mais il faut y passer. Et je crois que nous, dans nos vies, on le vit aussi. Il y en a deux qui avaient bien compris, c'était Josué et Moïse. Mais même Aaron, c'est pas sûr qu'il ait bien compris. Ils avaient encore des attaches avec l'Égypte dans leur cœur. Le confort, l'abondance, les dieux de l'Égypte, la façon de penser des Égyptiens. Voilà. On va retrouver Josué une deuxième fois après le premier épisode. Donc, il fait la guerre, il gagne sur les Amalécites dans la mesure où Moïse a les bras levés vers le ciel. Donc, vous rappelez, il y a deux personnes qui vont soutenir les bras de Moïse pour qu'il puisse continuer à intercéder. Très important. Ça, on en a parlé la dernière fois, j'y reviens pas. Israël va s'installer au pied du mont Sinaï et il va rester là presque un an. Et pendant cette année-là, Dieu avait des projets pour eux. Et c'est là que je reviens à ce que Marie-France disait. Oui, cette nappe qui est secouée, il y a des choses qui tombent. En fait, le seul but de Dieu, c'était de secouer la nappe et de faire tomber tout ce qui était culte égyptien, culture égyptienne, habitude de pensée égyptienne, habitude d'esclavage, etc. Il secouait. Moïse l'a compris, il s'est rapproché de Dieu. Josué, je ne sais pas s'il l'a compris, mais il l'a fait instinctivement, il a suivi Moïse, il s'est rapproché de Dieu. Aaron. Après 3 jours, Dieu rencontre le peuple qui s'est préparé et purifié. Il s'est préparé et purifié pendant 3 jours. Et Dieu va rencontrer le peuple. Et le but de Dieu, c'était d'établir une alliance. Et ça, vous savez, on trouve ça nulle part. Un Dieu d'alliance. Hein, moi, j'ai des petits musulmans dans ma classe. J'ai lu pas mal de choses sur d'autres religions. Et je suis toujours émerveillée par l'idée que Dieu est un Dieu d'alliance. Pourquoi faire une alliance avec des gens comme nous? Il a du courage. Tonnerre, feu, éclair, fumée, trompette, la terre tremble, c'est l'horreur. Le peuple, avec ses critères de l'Égypte, Ça fait peur. C'est sûr que c'était plus stabilisant de voir la statue d'un veau d'or ou Apis, là, avec ses cornes et son disque solaire, ou le pharaon dans son palais. Mais là, Dieu, ça leur faisait une peur. Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne avec 70 anciens, mais lui seul va s'approcher de Dieu. Les 70 restent un petit peu en retrait. Et Dieu, là, va lui donner les commandements et les lois qui composent le livre de l'Alliance. L'Alliance, alors, quelqu'un a fait remarquer, je crois que c'est un archéologue, qui a fait remarquer que l'Alliance qui est là, dans la Bible, alors si vous avez cette Bible-là, c'est bien écrit, Dieu fait alliance avec Israël au chapitre 19, et dit que l'Alliance était composée exactement comme les alliances de l'époque. Donc, on était bien dans la civilisation de l'époque. L'Alliance était composée comme ça. Dieu établit l'Alliance, il y a lecture de l'Alliance, après il y a la réponse du peuple, il y a tout un plan. Et après la réponse du peuple, il remonte, il donne la réponse du peuple à Dieu, Dieu scelle l'Alliance, parce qu'il y a eu le sang aussi qui a été versé, hein. Dieu scelle l'Alliance et il y a un repas avec Dieu. J'avais jamais remarqué ça. Les anciens vont manger là avec Moïse au pied de la montagne, parce qu'à cette époque, une alliance se faisait avec un repas. Il y avait aspersion du sang, hein, c'est-à-dire que je sois traité comme cet animal si je romps l'alliance, c'est ça que ça voulait dire. Et puis après, il y avait le repas, repas d'alliance. On ne peut pas s'empêcher de penser à la Sainte Cène. Il y avait déjà cette alliance. On est en 3500 ans par rapport à nous, hein, 3500 ans en arrière. C'est incroyable, hein. Et l'alliance était composée comme ça, même chez les autres peuples. Par contre, c'est l'intérieur de l'alliance qui n'était pas du tout la même. Là, c'était une alliance avec Dieu, à l'initiative de Dieu, et non pas à l'initiative des hommes. Et en fait, Dieu prenait une forme que les hommes pouvaient comprendre, mais l'intérieur était complètement différent. Et ça, c'est très beau à voir, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'archéologie. C'était bien intégré dans la civilisation de l'époque, mais le contenu était totalement différent. Totalement différent. Alors, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que c'est plus une œuvre de spécialiste. Je pense que ça vous barberait un petit peu. Mais je vous dis ça parce que c'est important de voir à quel point Dieu s'adaptait à l'époque comme il s'adapte à la nôtre. Mais le contenu est complètement différent. Alors, le sens du sacrifice au moment de l'Alliance, c'est clair, hein, ça voulait dire le sacrifice, ça coûtait une vie. On amenait la mort et ça voulait dire, bon, si j'obéis, je suis béni, si je désobéis, ça va me coûter une vie. Ça annonçait le sacrifice de Jésus, c'est clair. Donc, je répète, l'Alliance, c'était un temps d'adoration, c'est chapitre 24, verset 1. Ensuite, promesse, il y a eu des monuments aussi qui ont été levés, monuments, sacrifices, le sang est versé, aspergé, etc. Promesse du peuple en retour, repas avec Dieu. Très, très intéressant. Si vous regardez ça de près, c'est merveilleux. Ça annonçait le sacrifice de Jésus. Et après cette alliance, le peuple était d'accord. Il a dit, nous ferons tout ce que tu nous dis et nous écouterons Dieu. Ils ont pris l'engagement. Josué a vu ça. Josué était avec Moïse. Puis Josué est parti après, Moïse est parti après sur la montagne, vous savez, appelé par Dieu pour... à recevoir en quelque sorte les 10 commandements. Donc je vais bientôt m'arrêter parce qu'on va dépasser. Là, il y a un épisode intéressant parce que Josué part avec lui. Donc vous voyez déjà, Josué commence à être très proche de Moïse. Et Josué ne va que jusqu'à un certain niveau. Après, Moïse va tout seul. Par contre, Moïse a confié le peuple à Aaron et Hur. Alors moi déjà, je n'aurais pas fait ça. J'aurais dit, c'est un bon général, le petit Josué, là, on va le laisser en bas, parce que je soupçonne qu'un jour, ça va être le leader. Donc c'est bien qu'il reste avec le peuple, là, qu'il fasse ses armes pour 40 jours. Ça va lui apprendre des tas de choses, ça va le préparer. Puis éventuellement, j'aurais emmené Aaron, qui était plutôt dans la prêtrise, enfin, qui s'apprêtait plutôt à rentrer à la prêtrise. Je me suis dit, mais pourquoi il a emmené Josué et pas Aaron et Hur? C'est rigolo, hein? Parce que nous, on pense avec notre... Vous voyez là, on raisonne charnellement. Un bon général pour protéger l'armée. Un bon leader qui s'exerce à conduire le peuple. Mais Moïse savait, instinctivement peut-être, qu'un bon leader, il fallait qu'il connaisse Dieu avant n'importe quoi d'autre. Et qu'il rencontre Dieu sur la montagne. Et même si Josué était un peu à distance, il en a vu plus que les autres en bas. Et il ne s'est pas laissé entraîner. Et c'est là aussi qu'on voit, bon, je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez, Aaron, lui, s'est laissé entraîner par le peuple parce qu'il avait encore, dans son cœur, ce n'était pas encore clair. Et la pression du peuple a été très forte. À tel point que quand Moïse redescend, il va lui dire, ben voilà, ils ont amené de l'or, puis il est sorti un veau. Ben voyons, tout seul, comme ça. C'était du travail quand même de faire un veau d'or, pas nous faire croire n'importe quoi. Mais il était fragile parce que ce n'était pas encore gagné pour lui, la séparation d'avec l'Égypte. Alors pourquoi c'était gagné pour Moïse? Pourquoi c'était gagné pour Josué? Parce qu'il passait beaucoup de temps avec Dieu. Et là, moi, ça me reprend. Si on veut vraiment être sérieux dans le royaume de Dieu, je pense que souvent on raisonne charnellement. On voit les choses comme dans la société, quoi. Et on oublie que les bons leaders, les bons responsables dans une église, c'est ceux qui passent du temps avec Dieu. Et franchement, on n'en passe pas assez. Je parle pour moi. Je pense que c'est vrai pour nous tous. Josué a été celui qui a passé plus de temps avec Dieu qu'avec le peuple. Et là, on est tous repris dans notre conscience, je pense. Et je crois qu'on peut y travailler. C'est pas, notre cas n'est pas désespéré. Mais je crois qu'il faut y travailler. Et que plus on prend des responsabilités dans l'Église, que ce soit de faire le ménage, que ce soit de faire la cuisine, que ce soit de servir avec les enfants ou n'importe quoi, c'est le temps passé avec Dieu qui va complètement changer les choses. Ça m'a fait réfléchir. Il aurait pu faire ses preuves, je pense qu'il était quand même assez solide, le petit Josué, mais Moïse a préféré l'emmener avec lui sur la montagne, plutôt que de le laisser en bas avec les autres. Ça fait réfléchir. C'était la préparation d'un homme de Dieu. Et puis, quand ils redescendent, ah là, j'aime bien ce petit passage, Exode 32,15, c'est amusant. C'est amusant. 32,15, c'est curieux. Moïse descendit de la montagne, les deux tablettes du témoignage à la main, donc il avait les deux tables de la loi. Les tablettes étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. Ils insistent, hein. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tablettes. Quoi qu'on dise, ça ne se discute pas. Hein. Quand Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse, c'est Josué qui entend le premier, il était plus jeune, je pense qu'il entendait bien. Il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi lui, il a identifié ça, un bruit de guerre? Parce que c'était un guerrier. Il venait de remporter une victoire, il savait, il connaissait le bruit de guerre, et il a tout de suite, il était branché guerre. C'était sa première expérience, sa première grande expérience, il était branché guerre. Donc il a entendu un bruit de guerre, et parfois on entend ce qu'on veut entendre. Voilà. Bon, Moïse, c'est pas du jeu, parce que Dieu l'avait prévenu. Donc lui, il savait. Mais regardez comment Moïse l'a repris. Ce n'est pas un chant de victoire, ce n'est pas un chant de défaite, ce sont d'autres cœurs que j'entends. Curieux comme façon de répondre. C'est un peu pédagogique. Écoute bien Josué. Tu vois, écoute bien. C'est pas un chant de victoire. Ah, non, effectivement. C'est pas un chant de défaite. C'est vrai, c'est autre chose. Il essaie d'aiguiser son discernement, de lui faire écouter les choses différemment, d'écouter le peuple différemment. Et ça va lui rendre service à Josué dans les années qui vont venir. Écouter et discerner de quoi il s'agit. Ça m'a fait réfléchir parce que c'est curieux qu'il ait fait cette petite réponse. C'est pas un cœur de victoire, c'est pas un cœur de défaite, c'est un autre cœur que j'entends, c'est un autre chant. Pédagogique, notre Moïse. Et il exerce son discernement. J'ai remarqué aussi que Josué a toujours la même attitude avec Moïse, malgré son succès. Moi, je sais pas, il aurait pu dire, écoute, là, je viens de remporter une bataille, pourquoi tu me laisses, tu me confies pas le peuple? Il n'a pas bougé, il a suivi Moïse fidèlement, très humblement. C'est pour ça que c'est devenu un grand leader. Dans Exode 33, 7 à 11, on va retrouver cette notion de Josué, serviteur de Moïse. Et Alors, 33, on va le lire. Dieu, donc le Seigneur rappelle Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis, etc. Je donnerai à ta descendance. » Et Dieu redonne tout un tas de promesses et il demande au peuple de se débarrasser de ses ornements à la suite de sa désobéissance. Et Moïse dresse la tente de la rencontre qu'il avait mis au milieu du peuple. Il va la mettre à l'extérieur. Symbolique. Dieu avait vraiment espéré pouvoir habiter au milieu d'eux, mais ils sont trop rétifs. Ça, c'est moche, hein. J'aimerais bien que Dieu ne dise pas ça de nous, hein. J'ai voulu mettre ma demeure au milieu, qu'il soit obligé de la mettre à l'extérieur. Oh non, 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 Seigneur. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir vers la tente. Il n'était plus dans le camp. Attention à ça. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, etc. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente, mais ils n'y allaient plus, la tente n'était plus au milieu d'eux. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, puis il revenait au camp. Mais, et moi j'avais pas repéré ce verset, Hélène et Philippe l'avaient repéré, moi non. Mais son auxiliaire, le jeune Josué, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Ben mince alors, pour un futur chef, il n'était pas avec les autres. Il bougeait pas de l'intérieur de la tente, mais quelle préparation! Il venait de remporter une bataille, il avait vu Moïse redescendre avec les tables de la loi, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait pour se préparer à être le futur leader? Il ne bougeait pas de la tente où Dieu se présentait. Et voilà le secret. Voilà pourquoi ça a été un bon leader, Josué. Il ne bougeait pas de la tente. Lui, il n'avait pas accepté l'idée que la tente s'en aille à l'extérieur du camp. Donc lui, il est resté à l'extérieur, dans la tente. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la notion de mise à part. En fait, Dieu avait voulu que son peuple soit un peuple mis à part. On parlait de sainteté, c'est ça. Ça veut dire mis à part, sanctification. Mis à part et consacré à. C'est ça que ça veut dire, sanctification. Hein, c'est pas porter un foulard et... la sanctification, c'est pas dans les choses extérieures. C'est... mis à part et consacré à Dieu, dans le cœur. Le reste suit, évidemment. Donc, cette sanctification, il l'espérait pour son peuple, et il a vu que ce n'était pas possible. Le peuple a fait l'andouille, c'est le mot, vraiment, ils ont raté plein de choses, la tente est partie à l'extérieur. Et en fait, c'est le peuple entier qui devait être un peuple de prêtres, j'avais la référence, où Dieu, au début, dit, vous serez tous un peuple de prêtres, et on sent Dieu rempli d'enthousiasme. Puis voyant ce peuple tellement attaché à l'Égypte, tellement à la nappe, ben on a beau la secouer, ça ne tombe pas. Il met sa tente à l'extérieur. Et ça, c'est dommage. Et que Dieu ne fasse pas ça dans nos vies. Aaron était près du peuple, mais il était aussi près du passé, près de l'Égypte. Je pense que quelque part, il devait douter de l'amour de Dieu. Parce que je me dis, nous, on est comme ça. On doute de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on ne s'en rapproche pas plus. Je me suis posé la question, pourquoi on ne passe pas plus de temps avec Dieu ? Est-ce que c'est vraiment l'accablement du travail uniquement? Ou est-ce que c'est parce que quelque part dans notre cœur, on ne sait pas trop ce que ça va donner? Je me pose la question, pourquoi on ne passe pas plus de temps avec Dieu? Est-ce qu'on doute de son amour? Parce que tous les gens qui passent du temps avec Dieu disent c'est super. Donc, et on a chanté tout à l'heure, je désire entendre ta voix. Mais il y a quand même un prix à payer. Oh, ce n'est pas un sacrifice énorme. C'est simplement prendre du temps pour être dans sa présence. Alors, il y a des gens qui pensent vous faire des sacrifices, des machins, des pèlerinages. Non. Mais passer du temps pour être dans sa présence et ne pas douter de son amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et on a encore, je pense, au fond, cette crainte, comme les enfants d'Israël. Oh, cette crainte, quand Dieu descend, oh, oh là. Pourtant, nous, on a un sacrificateur qui a tout fait pour nous. On a mieux que Moïse, on a Jésus, parce que Moïse est un peu une figure de Jésus. On a mieux que Moïse, on a Jésus qui s'est sacrifié pour nous ouvrir la porte. Donc, si on peut retenir une chose de ce matin, c'était un peu fouillis, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est peut-être trouver plus de temps pour le Seigneur dans notre vie quotidienne. Et surtout, quand on a une responsabilité en l'Église, mais on a tous une responsabilité dans notre famille, en tant que prêtre, les papas particulièrement. On va commencer par les hommes, c'est plus sympa. La Bible dit, je voudrais que les hommes lèvent vers l'Éternel des mains pures, qu'ils prient en tout temps. Les papas. Nous, on verra après. Hein. On commence par les hommes. Mais je pense que si les hommes le font, on va suivre. C'est sympa de dire ça. Mais tout humour mis à part, je pense que Dieu nous appelle à ça. Pour que sa tente reste plantée avec nous. Moi, je n'ai pas envie que sa tente s'en aille. Je n'ai pas envie d'aller à l'extérieur pour rencontrer Dieu, mais qu'elle reste au milieu de nous. Et je crois que c'est un appel du Seigneur pour nous. Qu'on ne fasse pas comme Aaron. Il était chouette, Aaron. Il était mignon, il était compatissant, il aimait son peuple, mais il se laissait glisser. Josué, non. Moïse, non plus. Alors, voilà. Que le Seigneur nous bénisse.